车一样上，也是非洲丹麦的。
我是北京的古巴籍，我刚到的，是考试考试，然后比较临时，但是就是最近刚从北京出去，交大过完的。
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le gouvernement congolais a décidé de revoir à la baisse le prix des produits pétroliers à la pompe. Le litre d'essence pour la zone ouest-sud coûte désormais 1440 francs congolais au lieu de 1525 francs. Et pour les gasoils, 1430 francs congolais au lieu de 1515 francs congolais. Pour certains observateurs, cette disparité observée toujours pourrait être résolue par l'amélioration du circuit de distribution des produits pétroliers à travers le pays. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Claude Tiala est à la mise en onde. Faisa Gili Mbonda et Thierry Lamegi sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Voilà, nous avons en ligne Méry Bopé, vice-président national de l'association des pétroliers privés. Il est avec nous, il est notre invité. Je crois que il sera d'un moment à l'autre. Hein. En tout cas, c'est pas notre studio. Mais en attendant, on commence avec lui en ligne. Monsieur Bopé, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gérard.
Voilà, on a remarqué que le gouvernement congolais a décidé de revoir à la baisse le prix des produits pétroliers à la pompe, avec les tableaux que nous avons pu présenter en sommaire. D'abord, quelle est la réaction que vous avez en tant qu'opérateur pétrolier?
Bon, ma réaction ne peut qu'être la réaction des consommateurs. Vous savez, tout ce que nous faisons, nous tenons aussi compte des consommateurs qui sont réellement les participants à cet effort, même dans la maximisation des frais, des taxes, puisque c'est les consommateurs qui payent. Bon, mon sentiment, c'est que c'est une bonne chose de faire participer ou faire sentir l'impact de la tendance baissière du baril sur le plan international aux consommateurs congolais. Voilà, ça c'est le premier sentiment parce que c'est un souhait et tout le monde est en train d'attendre se concrétiser. Bon, puisque la nouvelle culture est là, je crois que c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui il y a baisse du prix à la pompe.
Alors, cette variation à la baisse n'est vraiment pas très significative par rapport à la baisse observée dans le monde.
Bon, je crois que le ministre de l'économie, son excellence Bahati, est intervenu pour expliquer que ce produit, de la même manière que j'avais expliqué lors d'une émission où j'étais invité, le pourcentage de la baisse ne peut pas être proportionnel au pourcentage de la baisse au niveau de la pompe. D'autant plus que ce baril-là, pour qu'il soit réellement consommé par ton véhicule ou par les consommateurs congolais, il doit subir un traitement. Et ce traitement, et quand on ajoute les différentes formes de transport, il a un coût. Et quand on y ajoute aussi la fiscalité et les charges d'exploitation des sociétés commerciales, les sociétés de logistique, jusqu'au tout dernier consommateur, donc il y a un coût. Alors ces coûts-là, il est à ajouter au prix du plat. Donc rien à dire là-dessus. Donc, on ne peut pas avoir 50% de baisse. D'ailleurs, je vous informe que le baril a encore galopé. On est à plus de 7 ou 8 dollars jusqu'hier quand j'ai regardé sur la bourse. Donc attendez-vous quand même à une augmentation parce qu'on n'a pas une explication claire de cette baisse brusque du baril du pétrole. Ça, je mets quiconque à défi. Qui peut expliquer pourquoi ça a baissé?
Voilà. Alors, Monsieur Méry Bopé, d'aucuns aimeraient un peu savoir. Hein, dans le secteur pétrolier de la RDC a connu quand même, disons, par quatre fois la variation à la hausse, si ma mémoire est bonne, dans l'espace de 2014-2015. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne sent pas cette variation brusque. Bon, voilà, parce qu'avec quatre fois, ça peut quand même être quand même très significatif, cette variation.
Bon, la variation, s'il faut dire, elle n'est pas mécanique. Elle n'est pas automatique non plus. Mais la variation tient compte des paramètres. Je crois que le prix, le gouvernement est tellement organisé au point qu'il y a tout un comité, oui, qui s'occupe rien que des paramètres qui concourent à la fixation du prix à la pompe. Donc, les consommateurs doivent avoir le rapaisement. Il n'y a pas négligence, il n'y a pas abandon. On s'occupe de cette population et des consommateurs de la très bonne manière. Donc, chaque paramètre est surveillé jour après jour. Mais on ne pouvait pas aller au-delà. Ce qui a été fait, nous avons dépassé les seuils de 5%. Il y a quelque chose qui a été fait, il faut applaudir. Mais notre souci, c'est de voir, bien sûr qu'il y a eu la loi sur les hydrocarbures, mais nous voulons voir réellement des investisseurs qui ne viennent pas seulement pour fuser comme les cas des autres, mais qui doivent mettre des mini
raffineries
pour traiter les bits congolais aussi. À ce moment-là, nous aurons une production qui va d'abord servir à la consommation locale, et les surplus, nous pouvons exporter et vendre et les bits et les produits blancs. Voilà, nous pouvons améliorer aussi notre fiscalité par rapport aux attentes budgétaires dans la profession pétrolière.
Alors, cette décision du gouvernement, pour certains observateurs, relance les débats sur les circuits de distribution des produits pétroliers à travers le pays. On se rend compte que pendant plusieurs années, le CEP, qui est le service des entreprises pétrolières, a pu assurer la distribution à travers la partie, visiblement à travers la partie ouest, du pays, mais l'Est continue encore à souffrir parce que, bon, on a comme l'impression que les opérateurs pétroliers s'approvisionnent quasiment donc de l'autre côté donc de pays voisins. Alors pour arriver à améliorer les circuits, donc si on arrivait à améliorer les circuits de distribution, cela pourrait donner quand même un bon résultat sur le prix des produits pétroliers qui jusque-là reste un peu disparate.
Oui, merci beaucoup pour cette question. Je voulais vous dire, monsieur le journaliste, que le secteur pétrolier, comme tant d'autres secteurs dans l'économie de notre pays, est aussi libéralisé. Là, c'est une occasion. Nous lançons un appel à ceux qui peuvent venir se joindre à nous, les opérateurs privés. Parce que on doit investir. Aujourd'hui, les monopoles de cette Congo à l'ouest, parce que je dois vous dire, pour ce qui est du type d'approvisionnement, il y a trois grandes zones qui sont reconnues pour l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers. Qui sont la zone est, du côté Goma, Bukavu, Kisangani, vers l'est, la zone sud qui prend les Katanga, par le chemin de fer qui peut aussi acheminer vers Mwene-Ditou, qui peut aussi aller vers les Bekasaï, jusqu'à Lebo. Et la zone ouest, qui prend tous ces produits qui viennent par tanker et qui passent par Ango-Ango, donc qui passent d'abord par la Soussir, pour les allègements et pour le stockage aussi, qui passent par Ango-Ango, cette Congo, Pipeline, et puis dans les tanks ici, sur place au siège. Alors, pour un produit qui qui est acheminé dans une des zones que j'ai citées. Ce produit subit un traitement de transport et il a un coût lorsqu'on le met en consommation. C'est pourquoi il y a des écarts dans le prix au travers de ces trois grandes zones. Donc, un produit qui est à l'ouest, il a un prix qui sera évidemment différent du prix, par exemple, d'un produit qui est arrivé au Katanga ou un produit qui est arrivé à Goma ou à Bukavu. Par le simple fait que ceux qui ramènent le produit, les fournisseurs qui sont agréés, ils ont quand même un prix de revient du produit rendu RDC suivant les trois zones. Quoi de plus normal que le prix ne soit pas
le même.
Mais il y a quand même moyen de le
réguler.
Ici, je crois que pour uniformiser les prix, je crois ici que c'est dans la vision du nouveau ministre de l'économie, Monsieur Excellence Mahati, qui a dit, moi j'étais dans un président, il dit, est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir pour mettre en place un système de péréquation qui permet quand même d'équilibrer pour arriver à l'uniformisation ou à homologuer les prix sur l'ensemble du territoire national. Bon, cela est possible.
Tout à fait.
Il faut mener des études, essayer de descendre sur terrain, parce que il faut valoriser aussi les circuits et les charges d'exploitation des sociétés indépendantes, donc des sociétés privées qui sont qui abattent un travail.
Monsieur Bopé, le secteur pétrolier à RDC n'est pas né de la dernière pluie. Je crois que ce secteur a déjà de l'expérience. Pourquoi ce secteur n'a pas suivi la modernité comme dans d'autres pays? D'autres pays africains. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on a difficile à homologuer les prix, on a difficile, vous avez dit, c'est faisable, le système de prééquation, comme le propose le ministre, pourrait apporter tant soit peu une solution. Mais pourquoi n'avoir pas eu à mener les études en amont, c'est-à-dire bien avant, peut-être au moment où on a parlé des réformes très engagées dans les secteurs de l'économie?
C'est pas aujourd'hui, c'est pas une innovation. Tout ce que je suis en train de dire, il y a déjà des réflexions autour de ça. Il reste la cristallisation, donc qu'on les applique. Bon, mais écoutez, le secteur pétrolier, c'est un secteur hautement stratégique. On ne peut pas y aller comme dans d'autres secteurs, parce que aujourd'hui, le pétrole intervient dans plusieurs domaines. Et ça influence en grande partie l'économie du pays. Ceux qui sont aujourd'hui, qui avaient le monopole hier, donc les multinationaux et qui ont beaucoup d'argent, ils ont investi. Nous qui sommes privés, nous qui venons et qui abattons quand même un travail non négligeable, on a besoin du soutien. On va investir, oui, mais regardez par exemple au Katanga, vous n'allez pas me dire que les privés n'ont pas investi. Mais au Katanga, les multinationaux représentent entre 15 ou 20% dans l'apport de l'approvisionnement. Et c'est à l'ouest ici, bon, ici c'est le milieu où tout est parfait, entre guillemets, mais ils ont le monopole, ils ont la part du marché. Ils ont aussi la responsabilité de l'État. L'État doit nous accompagner, nous les privés. C'est l'État qui doit nous accompagner.
Voilà, alors
en nous donnant et les moyens et en nous accompagnant réellement. Bon, j'ai déjà vu la volonté qui se manifeste progressivement, c'est dans la prise en charge de charges de sociétés privées. Ça, c'est déjà bon. Okay, quelqu'un qui amène son véhicule, il est privé, il ne passe pas le circuit du Congo, il a le produit rendu Bukavu, mais il doit vendre au prix que ceux-là qui n'ont pas un pourcentage considérable dans l'approvisionnement de cette zone proposent. Voilà, ce qui n'est pas trop bien.
Voilà.
Alors, maintenant là que les choses sont en train d'évoluer dans ce que, tel que nous les voulons, je crois que plus tard, il faudrait peut-être voir, au lieu de donner les licences pour les importations de produits pétroliers, commençons par les investissements dans les stockages et dans les circuits de distribution. Mmh. J'ai déjà vu, je cite le cas d'un collègue, un ami qui est dans le pétrole, Jacob, qui a déjà mis en place un circuit de distribution et de stockage important. Je peux même vous inviter à visiter cela. Mmh. Et nous attendons aussi le soutien des uns et des autres. La volonté politique, là j'insiste, il faut une volonté politique. Parce qu'on parle le temps de l'émergence, on parle de la promotion des PME,
des
privées. Mmh. Mais ça ne doit pas rester dans les discours. Quelle est notre part du marché ? Lorsqu'on voit même ces mêmes de sociétés des Chinois qui ne passent même pas commande chez nous. On va vendre à qui ? On va se distribuer pour vendre à qui ?
Voilà.
Tous les marchés sont presque attribués.
Oui, monsieur Bopé, je crois qu'il y a certains auditeurs qui pensent que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'innovations dans la loi sur les hydrocarbures. Hein.
Oui.
Et d'aucuns pensent qu'il faille aujourd'hui au gouvernement congolais de donner les tempos, c'est-à-dire ce qu'il avait comme projet à l'époque avec la Co-Hydro ou encore le Petrozaïre à l'époque, je crois que c'est l'idéal de créer une société ou une entreprise nationale qui pourrait assurer la distribution ou encore organiser ces circuits de distribution pour amener à homologuer les prix à travers le pays. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, d'autant plus que si cet avis peut résoudre les réels problèmes des écarts de prix entre les zones que j'ai citées tantôt, tant mieux. Mais Petrozaïre, c'était quand même à l'époque une grande société qui avait résolu le problème d'approvisionnement parce qu'il disponibilisait les produits au profit des distributeurs au niveau local. C'était déjà une bonne chose. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas prendre Co-Hydro, Co-Hydro et lui laisser le monopole, parce que Co-Hydro, c'est une société commerciale, comme toute autre société.
Oui.
Donc, Co-Hydro va rester compétitive par rapport aux autres. Et Co-Hydro va aussi s'aligner comme les autres. D'ailleurs, je peux même vous scandaliser, quand on va à Step Congo pour les opérations, Co-Hydro est traité comme ma petite société, c'est
dit. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, qui connaît chaque fois des risques de
sang. C'est une société indépendante,
oui.
Et qui est
très malheureux, très
une
malheureux.
Société commerciale, et qui doit aussi définir sa politique commerciale et faire la compétition avec les autres. Mais, quand cela ne tient, il faut une volonté politique. Si l'État fait revenir dans cette politique qui a longtemps qui existait, c'est-à-dire disponibiliser des produits au profit des sociétés commerciales pour la distribution et l'approvisionnement, je pense que ça sera une très bonne chose. Et nous allons prendre les produits localement, c'est-à-dire auprès des Co-Hydro ou auprès des autres qui seront aussi alignés, pour le ramener dans les Congo profonds. Et ramener le produit même dans les coins
les plus réclamés. Voilà, merci beaucoup Monsieur Bopé. Nous vous gardons en ligne parce que les débats continuent avec Joseph qui est à Bukavu et Franck à Vienne. Nous retenons que c'est vrai, il y a possibilité de réduire les écarts qu'il y a autour des prix hein, des produits pétroliers à travers les différentes zones de distribution au pays. Voilà, donc vous avez cité le cas de Petrozaïre qui, à l'époque, assurait les monopoles, d'ailleurs, de l'approvisionnement et de la distribution, d'ailleurs, des produits à travers le pays. Aujourd'hui, la Co-Hydro n'arrive pas à jouer ce rôle, d'autant plus qu'elle évolue comme une entreprise privée et qui doit faire face à des concurrences. Merci beaucoup. Monsieur Bopé, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps d'ouvrir les standards et accueillir Joseph qui est à Bukavu et Franck à Vienne. Bonjour, Joseph.
Bonjour, merci. On va prendre la parole. Pour les civils aujourd'hui, c'est très important. Et malheureusement, nous remarquons sur le terrain, c'est le contraire, puisque ici, à Bukavu, nous dépendons des pays voisins. Ici, nous faisons seulement l'importation. Or, il y a des pays pour faciliter que nous puissions exploiter les terres qui se trouvent au sein de la République. Ça pourrait faciliter à tout Congolais, disons, des ferrovitae et de tous les besoins au niveau du secteur pétrolier. Alors, je viens de suivre aussi l'invité, c'est vrai, et à l'époque, il y avait ont l'entreprise qui fournissait et l'État qui s'en occupait. Alors quand on est en train de lancer et le secteur privé aussi de s'en occuper, c'est bien, c'est mon souffrant. Alors si nous faisons de l'importation, on nous impose des prix. De façon que ce sont les pays, disons les pays voisins, qui participent. Et leur économie évolue davantage. Au moment où on a tous les atouts que nous puissions exploiter le pétrole qui se trouve au Congo.
Oui, Joseph, si vous pouvez nous faire une idée, parce que est-ce vrai, il y a vraiment une influence de pays voisins dans les secteurs. Est-ce qu'on peut nous faire une idée, les prix fixés par le gouvernement, est-il respecté dans cette partie du pays, dans la zone Est? Le prix, par exemple, du gasoil, 1400 francs congolais le litre.
1400, non, la fois passée, on a acheté pour 1500 francs, et quand il y avait des grèves ici, on avait acheté pour 2000 francs. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de respect, et même s'il y a la diminution des prix, vous verrez que les moyens de transport, il n'y a pas la diminution.
Mmh.
Alors, on dit la vérité, le contraire à la fois, et que donc, le gouvernement va prendre ses responsabilités si on fixe les prix. Il faut qu'au marché aussi, les prix soient respectés, et que les transports aussi, soit aussi, les prix du transport aussi soient diminués. Alors, ce que je voulais inviter, demander à l'invité, disons, de faciliter aussi et à ceux-là qui veulent, disons, créer les entreprises privées.
Oui, la loi sur les hydrocarbures a déjà libéralisé les secteurs, donc je crois que dans l'esprit, c'est pour permettre à ce qu'il y ait notamment un nombre important des investisseurs dans les secteurs. Donc je crois que ce côté-là, il n'y a plus débat parce que le gouvernement a ouvert les portes aux investisseurs pour exploiter le pétrole à RDC et aussi, si on peut aller plus loin, peut-être avoir des raffinages ou des raffineries comme on l'appelle dans les secteurs. Donc pour permettre à ce qu'il y ait vraiment une production importante afin d'assurer aussi la distribution.
Ah, c'était, je voulais augmenter.
Voilà. Merci beaucoup, Joseph. Mais nous retenons une chose que pour vous, vous vous inquiétez aussi sur le voisin qui influence un peu ce dans le secteur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les opérateurs pétroliers en profitent pour faire une marge bénéficiaire un tout petit peu exagérée. Donc, il faudrait que l'État travaille dans les secteurs qui, en fait, doit être regardant pour réguler le secteur afin d'éviter ces genres de spéculations. Merci beaucoup, Joseph. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour.
Ouais, bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
Vous avez la parole, Franck, comment réagissez-vous?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je crois que le problème de la vente du carburant chez nous pose déjà toute une série de problèmes parce que l'État en soi ne contrôle pas tous les circuits de vente du carburant. Je peux m'expliquer en ceci. Dans d'autres lieux, ici par exemple en Europe, le carburant se vend seulement au niveau des stations. Et à partir de ces circuits, le prix peut être uniforme. Donc, on peut maintenir l'uniformité des prix parce que c'est contrôlé à partir de la bourse. Mais chez nous, ça dépend maintenant des situations ou des villes à partir desquelles on se retrouve. Un monsieur qui se retrouve, par exemple, dans la ville de Kikwit ou dans la ville de Bandundu, ou des gens qui sont tout au long de la route entre Kinshasa et Kikwit, il y en a qui se retrouvent dans le circuit de la vente du carburant, mais qui n'ont pas des infrastructures de vente du carburant. Donc, ils arrivent à Kinshasa, ils s'approvisionnent, ils louent un gros véhicule, ou bien il y en a qui se servent aussi de bateaux de baleinière pour qu'on puisse acheminer leurs marchandises jusqu'à la destination. Et à partir de là, ils arrivent maintenant à mettre, à fixer le prix de leur carburant en fonction de tout ce qu'ils ont dépensé au niveau du prix d'achat. Donc ça signifie que l'État en soi ne met pas à disposition de tous ces vendeurs de carburant toutes les infrastructures appropriées pour que le prix du carburant puisse être un peu uniforme quoi, à travers les familles de la République. Ça c'est un peu de deux. Quelquefois, on a constaté que quand il y a baisse de prix, on dit seulement qu'il y a baisse, mais au niveau de la vente d'autres articles, il n'y a pas vraiment baisse. J'aimerais par exemple qu'on nous dise qu'on a baissé le prix du carburant et si on peut aussi contrôler au niveau des supermarchés, qu'on se rende aussi compte que les articles qui sont vendus en proportion de la monnaie américaine en dollars, subissent aussi un peu de baisse, quoi. Mm-hmm. Et dans la plupart des cas, on dit aux citoyens, le prix du carburant a baissé, mais si vous allez vous acheter quelque chose, margarine, confiture, dans des supermarchés, des expatriés, vous vous rendez compte que le prix ne baisse pas totalement. Alors là aussi, il y a un peu de manque à gagner, quoi. Donc, on dit qu'il y a baisse du carburant, mais en réalité, cela n'a pas trop d'impact,
pas d'impact sur eux.
Les études quotidiennes des citoyens. Mmh. Je crois que par rapport à ce que je viens de suivre, il y a toute une série de problèmes. Donc l'État ne contrôle pas tout le circuit de la vente du carburant. Et en ce sens-là, c'est un peu difficile que l'État puisse un peu maîtriser la stabilité des prix sur toutes les familles du Congo.
Oui, Franck. Oui, Franck. Oui, Franck. Oui, Franck.
Il y a des sens de revendre à 1700, à 1900, à 2000, selon le milieu où il se retrouve. Mmh. Selon aussi, tout ce qu'ils ont dû dépenser pour les transports. Donc, je crois que si on peut encore approfondir les échanges vers cet aspect-là, ça peut encore être bénéfique.
Oui, Franck, notre invité a évoqué tout à l'heure, lorsque je lui ai posé la question sur l'expérience du passé, le cas de Petrozaïr qui a assuré, en tout cas sans faille, le circuit de distribution de pétrole à l'époque, et cela a donné le résultat. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans la loi sur les hydrocarbures, et qui enlève quand même les monopoles à certains des entreprises et aussi même au niveau des CEP qui a assuré donc jusque-là la distribution. Alors, aujourd'hui, vous pensez que la création d'une entreprise ou d'une société nationale pour, au fait, concourir avec d'autres sociétés commerciales, ça pourrait être une partie de solution à ces problèmes?
Oui, je crois bien, hein, si l'État ne fait que privatiser sans tenir compte de ses revenus au niveau de ses caisses, là ça devient aussi un problème. Puis, privatiser chez nous, ça signifie peut-être prendre ce qui appartenait à l'État, on le donne à un individu qui dit qu'on a privatisé mais qui travaille seulement pour soi-même. Quoi. Donc, on peut encore restructurer la fête, c'est une société d'État. Je n'ai rien contre si on peut privatiser certains circuits, mais il faut que la privatisation ne puisse pas vraiment peser sur les dettes de consommateurs, quoi. Parce que chez nous, qui dit privatiser, implique aussi de laisser aller au niveau des prix, et puis, quand l'État ne contrôle pas tous ces secteurs privatisés, c'est tout ce qui pose problème. Donc, je crois que le problème, c'est pas au niveau de privatiser, mais le problème, c'est au niveau de demander à l'État d'avoir toujours le contrôle étatique de tous ces ressorts privatisés, quoi. Parce que si on privatise et que l'État ne sait pas contrôler comment ça fonctionne là-bas, mais qui en participe, le consommateur, qui est le peuple,
voilà,
c'est
alors,
nous et moi. Donc,
Nous revenons à la théorie des Boisbois Kayembe, professeur de l'économie et fiscaliste, qui parlait de la formalisation de l'informel, qui pourrait être également une solution à l'économie, à tous ces problèmes auxquels fait face l'économie nationale. Voilà, donc merci beaucoup Franck d'avoir appelé. Nous retenons que l'État ne contrôle pas tous les circuits de vente du pétrole. Vous avez cité l'exemple en Europe, tous ces vents à partir des stations, pour permettre à ce qu'il y ait moyen de contrôler l'évolution de la bourse. Alors, pour vous, donc, le secteur informel a donné l'exemple sur la route nationale numéro 1, où on sent qu'il y a des gens qui s'improvisent vendeurs ou encore opérateurs pétroliers. L'État n'arrive vraiment pas à contrôler, ça ne sert à rien de privatiser, mais tous les secteurs, donc il faut quand même que l'État soit un peu regardant et de contrôler les circuits pour permettre à ce qu'il y ait l'homologation des prix. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. Bénin, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Pierre.
Vous avez la parole, Bénin.
J'ai quelques préoccupations sur ce sujet. La première préoccupation, c'est que lorsqu'il y a baisse du carburant, excusez le terme, les Chinois s'attendent, par exemple, parce que c'est à Kinshasa où le transport urbain le plus fréquent, on s'attend à la baisse aussi du prix des transports urbains. Depuis que la mesure a été prise, le propriétaire de véhicules, donc les usagers, bénéficient déjà de rabais, mais le peuple ne bénéficie pas le rabais du transport. C'est une préoccupation. La deuxième, c'est que, vu la grandeur du pays, le prix du pétrole ou de carburant en général, c'est difficile qu'on l'uniformise si le gouvernement prend des mesures. Je donne un exemple. Lorsque ceux qui vont s'approvisionner à Soyo par Mwanda Bom vont passer, par exemple, vendre à Kisangani, ils prennent le parcours du bateau et ils ont un coût pour l'évacuation. Alors, si le prix baisse par l'ordre du gouvernement, il est difficile que ce monsieur-là qui calcule le coût de transport d'un coin du pays à l'autre vende au prix fixé par le gouvernement. C'est une deuxième préoccupation. Maintenant, la question que je me pose est que qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour avoir certaines mesures plutôt d'accompagnement qui font que, et les privés, parce que le pays est tellement grand, comme je l'ai dit, que toutes les sociétés d'approvisionnement ne peuvent pas atteindre tous les points. Avec l'arrivée des motos et consorts, les points les plus récurés, maintenant, deviennent des consommateurs. Alors, qu'est-ce qui peut être fait, les mesures d'accompagnement, qui peuvent être faites plutôt pour que, au niveau des points les plus récurés, que la population aussi bénéficie de ces rabais de prix fixés par le gouvernement. Et puis, encore une question. À l'importation du pétrole, comme je donne toujours l'exemple de ce que j'ai vécu est-ce que ceux qui importent ont maintenant des faveurs, donc des mesures de rabais du prix à l'importation, des taxes douanières, tout en sort. Donc, si l'invité a même de me répondre à ces trois préoccupations, je serai quand même content.
Voilà, on revient à vous, M. Méry Beaupé. Vous êtes avec nous?
Oui, j'ai changé.
Voilà, parce que la préoccupation de Béna de tout à l'heure, c'est une préoccupation directe. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Bon, je remercie tous les intervenants. Je comprends qu'ils sont aussi intéressés à ce secteur qui est vital. Mais je voulais d'abord répondre aux premiers intervenants. Excusez-moi, je n'ai pas retenu tous les noms.
Oui, il y a Joseph.
Qui a parlé des ventes des prix de produits, par exemple, il a cité le cas de l'Europe.
Oui, c'est Franck de Vienne. Franck de Vienne en Autriche.
Ok, à partir de l'Autriche, c'est nous saluons. Et je dis, ce n'est pas tellement vrai. Parce qu'il n'y a pas que des automobilistes qui s'approvisionnent dans les stations de service. Ce sont pour la plupart des automobilistes. Le motocycliste qui ont un véhicule, un engin qui peut aller s'approvisionner. Généralement, dans les stations-service, on n'accepte pas des livraisons dans des grandes quantités parce que ce distributeur, après avoir livré sans interruption une grande quantité, il peut subir un petit problème technique lié à un chauffage ou à un autre problème. Ça, c'est techniquement bien expliqué et il ne va pas me contredire. Mais par contre, il y a ceux qui sont consommateurs directs, qui peuvent avoir une petite citerne bien conservée où on a fait des études pour voir est-ce que ça ne dérange pas, ça ne fait pas connaître un cas d'incendie et tout ça. À ce moment-là, on amène un camion citerne pour l'approvisionner. Même en Europe, ça se fait. Surtout en hiver, il y a des gens qui s'approvisionnent en gazoil à partir de leur station pour alimenter le générateur ou un autre moteur.
Mm-hmm.
Alors, dans le cas de notre pays, il n'y a pas que ceux qui achètent dans les stations-service. Il y a des consommateurs, il y a des transporteurs, il y a des armateurs, il y a tant d'autres qui consomment des produits pétroliers à partir de leurs usines et à partir de leurs industries. Et là, nous livrons directement sur le site, après avoir bien sûr vérifié tous les éléments techniques autour de l'approvisionnement. Ok. Alors, pour ce qui est de l'État, moi je pense que ce qu'ils disent, oui je comprends, c'est parce qu'ils parlent avec émotion, mais comment on peut dire que l'État ne contrôle pas? Comment? Et comment on fixe les prix si l'État ne contrôle pas? Ça pourrait être un désordre, chacun peut fixer son prix. L'État contrôle et veille à ce secteur de la plus belle manière. S'il y a des cas, par exemple, pour celui qui a parlé de sur la route de Kikwit, mais c'est un cas isolé, mais c'est à la population, c'est à nous, consommateurs, de veiller à ce que quelqu'un ne vienne pas appliquer de l'anarchie dans un secteur stratégique qui prend un produit, qui le vend à son prix, sans tenir compte du prix fixé par l'autorité tarifaire qui est le ministère de l'économie. Et au travers toute une structure
qui travaille et qui surveille les paramètres qui entrent en ligne de compte pour fixer les prix des produits à la consommation. Je crois que quelque part, il nous appartient, nous, dans notre vigilance, de veiller à ce que ces gens-là n'appliquent pas des prix qui restent non compétitifs par rapport aux prix fixés par l'État. Je crois que là, on est d'accord sur ce principe. Alors, pour notre ami qui a parlé des indépendants ou les privés qui s'approvisionnent à partir des soyaux, je crois que j'ai déjà posé plusieurs questions à la DGDA. Nous devons sécuriser les opérateurs économiques. Et d'ailleurs, dans nos objectifs, nous cherchons toujours à ramener ceux-là qui sont dans l'informel, qu'on appelle Kadhafi.
Le Kadhafi, oui.
Qui prennent dans les bidons. Parce que ça doit quand même disparaître. Hein.
Oui, les intermédiaires. Oui.
En ce temps de modernité, des gens qui vendent encore dans les coins des avenues. Mais nous voulons aller vers les structures modernes où on peut bien travailler. Parce que ce sont des grandes équipes ou des petits commerçants. Ils peuvent se regrouper et venir vers nous. Et nous faisons, nous tendons toujours la main
Mais c'est beau, c'est quand même un secteur un peu stratégique, comme vous l'avez dit. Mais aller à Lubumbashi, est-ce que vous êtes déjà arrivé de voir comment s'est fait la distribution de pétrole là-bas?
Bon, Lubumbashi, il y a quand même...
C'est un cas particulier.
Oui, il y a quand même beaucoup de privés qui ont réellement investi avec les capacités de stockage, avec des stations de service. Mais la ville, elle est tellement grande. Par exemple, pour parler de Lubumbashi, il y a toujours un besoin d'investissement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous devons rapprocher les consommateurs des circuits d'approvisionnement et de distribution. Ça, c'est une vision que nous voulons réellement concrétiser. Mais quand on regarde ces commerçants qui rachètent le produit à Soyo, mais s'ils ramènent ce produit jusque dans les coins les plus reculés pour la commercialisation, il revient aux différents services œuvrant dans les frontières. Bon, la DGDA, qui est le service des douanes, et tenir compte de l'impact de ce produit sur le marché local des produits pétroliers. Si le pourcentage est négligeable, on peut toujours chercher comment est-ce qu'on peut corriger. Mais si on sent qu'ils peuvent réellement perturber, ils peuvent appliquer dans leurs activités ou des prix qui va dans une concurrence déloyale et qui peut perturber la compétitivité, je crois qu'il y aura bien sûr des mesures.
Des mesures. Voilà. Alors, nous allons repasser de l'autre côté du standard pour retrouver Arsène qui est à Kikwit et Jérôme à Abouya. 081 890 7315 pour votre intervention directe.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteur, compositeur, interprète, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs.
Nous poursuivons avec Parole aux auditeurs. Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Arsène, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, monsieur Vier.
Tout à l'heure, notre invité a annoncé la vision des opérateurs pétroliers de la RDC qui tiennent au fait à rapprocher les consommateurs de ces circuits de distribution. Vous pensez que cela peut être possible en passant par quoi?
Merci beaucoup pour la parole, monsieur Vier. Moi, j'ai toujours pensé que le domaine du pétrole, c'est un domaine d'abord de souveraineté. Les démarches qui sont faites au niveau des instances supérieures de distribution, je crois que c'est une démarche à louer. Mais pour réussir ça et que ça soit durable et efficace, je crois que l'État doit intervenir d'une façon stratégique. Ça veut dire ceci, Ça veut dire que l'État doit maîtriser le circuit de production, de transformation et de distribution. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, chez nous, nous avons du pétrole. Nous produisons même du pétrole ici. Nous raffinons du pétrole. Mais nous n'avons pas la maîtrise de cette production et du raffinage. En plus, le pétrole aujourd'hui a des distributeurs. Cette distribution est faite par des privés. L'État peut intervenir un tout petit peu dans la distribution avec Coïdro. Mais alors, la grande majorité des produits est faite par des privés. Aujourd'hui, si l'État pouvait maîtriser le domaine de production, nous avons un tas de sites chez nous que nous pouvons trouver des solutions où nous pouvons maîtriser la production. Puis le raffinage, nous n'avons que Sosir par exemple. Sosir n'a pas vraiment la capacité de raffiner le pétrole qu'il nous faut chez nous. Là, d'office, nous dépendons aussi de privés. Et tellement que c'est stratégique, vous allez voir, nous allons commencer à subir des chocs par choc. Et ce choc-là, nous n'allons pas les maîtriser, comme en 1974, où on a vu le prix du cuivre baisser considérablement et du coup, le prix du pétrole monter considérablement. Et ça donnait un choc terrible à l'économie de notre pays. Mmh. Aujourd'hui, moi, je pense, le domaine du pétrole et le domaine de l'énergie électrique doivent aller ensemble. Nous devons équilibrer le pétrole par l'énergie électrique et nous devons augmenter la production. Ensuite, s'il y a possibilité, avec la production agricole, question de compenser le produit pétrolier et on peut maîtriser l'équilibre du prix. Il y a le circuit de distribution, le pipeline, les véhicules, et par fleuve. Je crois que si nous maîtrisons tous ces domaines que je venais de citer, d'ici les 10 ou 15 ans, je crois qu'on peut faire quelque chose et maîtriser le pétrole chez nous. Voilà un peu l'idée que j'avais.
Merci beaucoup, Arsène, d'avoir contribué dans cette émission. Pour vous, donc, la distribution et la commercialisation des produits pétroliers constituent la source de l'énergie pour les différentes activités, hein, et jouent un rôle important. Donc, il faudrait qu'on maîtrise un peu tous ces paramètres pour arriver vraiment à une solution idéale. Merci. Jérôme, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Ah, bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, Jérôme. Comment vous réagissez?
Ok, merci. Concernant les thèmes du jour, je pense à ce qui concerne la structure des prix ou bien l'uniformisation dans le secteur pétrolier. Tout à fait, au regard de certaines interventions, il y a une nette différence entre l'Est et l'Ouest. Parce que nous qui sommes à l'Est, dans ce secteur, nous dépendons exclusivement des importations de pays voisins. C'est le Kabounia, le secteur pétrolier, c'est l'apanage des Congolais, surtout des privés qui importent à partir des Kenya. Mais à l'interne, au niveau de Bounia, quand vous êtes sur place dans la cité de Bounia, ce qui se passe, par exemple, en décembre 2014, lorsque l'État a augmenté le prix de pétrole à la pompe, disons à 1600, à cette époque, à Bounia, en décembre 2014, un litre de carburant à la pompe se vendait à 1300 francs congolais. Actuellement, lorsqu'on essaie de réajuster plus à 1500 au niveau de la pompe, ça trouve la tendance toujours de ce secteur privé est à la baisse par rapport à la logique du gouvernement au niveau de notre capitale. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan pratique? Le propriétaire, le commerçant, ceux qui vendent au niveau des services de station à la pompe, ils vendent à moins cher à l'air détaillant qu'on appelle communément des cadastres. Parce qu'à la pompe, lorsque les carburants, un litre coûte 1600, vous trouverez au niveau des cadastres, un litre coûte 1300 francs congolais. Pas caché qu'ils pratiquent même les prix un litre aux côtés de l'air d'établissement.
Est-ce que ces produits-là sont de qualité, de bonne qualité, Jérôme?
Oui, c'est de très bonne qualité parce qu'ils les achètent auprès de ceux qui ont des services stations. Tout simplement, on parle que le prix est à la station de 1300 et qu'au niveau des cadastres, c'était à 1500. Lorsque l'État a voulu augmenter les prix à ce moment, il y a d'abord un moment où il y a la contestation de ceux qui détiennent ce secteur. Même les services d'économie est passé dans toutes les places pour leur dire que nous, si ils vendaient à 1300, ils vendaient à perte. Alors, il faudrait remonter les prix tels que fixés par le gouvernement. Et nous, les constructeurs, on s'est posé la question, un commerçant qui a déjà duré dans le secteur, comment accepterait de vendre à perte et sachant bien les coûts d'importation qu'il supporte au niveau des Bounia. Alors à ce moment-là, c'est l'État a haussé le prix parce qu'un certain nombre de commerçants avaient été sommés à payer des amendes au niveau des services de l'économie pour raison des concurrences déloyales. À ce moment-là, ils ont renversé la tendance. Ils vendent à moins cher pour les Kadhafi et quittent maintenant à ces Kadhafi de vendre aux consommateurs directs. À ce moment-là, ça permet la continuité dans leur chaîne d'importation et puis ça permet aussi la rapidité dans les déroulements sur le terrain. Donc dans ce discours, moi personnellement, il est difficile à l'État congolais de bien harmoniser les prix parce que l'État n'arrive pas d'une manière éterne à produire le pétrole. Vous vous souvenez encore bien, à l'Est, quand vous êtes à Bounia, vous parlerez de Bassé, de Lac Albert, bon, on parle d'Albertine, bloc 1, bloc 2.
Tout à fait, les blocs 5 qui se situent actuellement. Qui fait couler beaucoup
d'argent. Le Congo n'est toujours à querelle, quelle société va exploiter ça, c'est là plus de 3 ans. Alors, lorsque nous ne sommes pas à l'aise d'abord d'exploiter ce qui est chez nous, il nous est difficile de fixer les prix sur ce qui est importé de l'extérieur. Parce que là, il faut exporter. Chacun porte de sa façon, même s'il faut un peu de rabais. Ça dépend de ce qui est de distributeurs et de pays d'exportation. Et nous finissons souvent à fixer les prix à la distribution au niveau des postes. Mais il nous faut beaucoup plus. L'État congolais doit s'engager d'abord à exploiter les carburants qui est chez nous. Il est où à parler de raffineries propres à la Congolaise pour nous permettre à ce moment-là de
faire
de notre carburant au lieu que chaque fois qu'on puisse se fumer à fixer le prix sur les carburants importés dans d'autres pays. Parce que ce sont les personnes sur moi, il nous faut les exploiter, il nous faut les raffiner et que nous soyons aussi forts à exporter aux autres afin qu'on nous soit un peu. Parce que chaque fois qu'on importe, vous êtes à la frontière. Bon, c'est bon, c'est nous de l'autre côté, vous traversez, on dit, mais tout ceci chez vous, c'est plus que chez nous, voilà que nous gagnons à votre dos. Alors, chaque fois, le plus-value que nous apportons aux autres, des fois qu'on puisse faire chez nous, que le plus-value nous revienne, nous, l'État congolais, afin que notre budget augmente, afin qu'aussi, au niveau interne, qu'on les fasse dans nos vécus quotidiens.
Merci beaucoup, Jérôme. Vous relancez encore les débats sur l'exploitation du bloc 5 qui fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre et des salives. Faudrait-il permettre cela en tant que domaine de l'UNESCO, le parc de Virunga qui devait être aussi une partie donc qui devait subir de cette exploitation. Voilà, donc c'est tous ces débats. Mais vous rejoignez Franck et tant d'autres auditeurs qui ont parlé de la production. Je crois que la solution provenait uniquement au niveau de la production si l'État s'engageait aussi à exploiter les pétroles et à raffiner et pourquoi pas à les commercialiser, donc organiser un circuit de distribution. Ça pourrait résoudre ce problème donc des écarts criant des prix à travers le pays. Merci beaucoup. Madame Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis. Bonjour et merci de nous rejoindre.
Bonjour à Radio Papi. Je voulais intervenir dans ce sens ici. Je vais faire un pas en arrière. Dans une émission, j'ai parlé de l'économie ouverte comme j'avais dit. La fois passée, le Congo a ouvert son économie sans pour autant maîtriser les enjeux, sans pour autant avoir les entreprises qui extraient, qui traitent le
pétrole.
Qui traitent le pétrole. Si vous écoutez tous les intervenants, vous allez voir qu'il parle de l'importation. Il n'y a pas l'exploitation de pétrole au Congo. Sur le lac Albert, il y a le pétrole. Les Ougandais, ils ont déjà une compagnie. Même les Rwandais, ils ont déjà une compagnie. Qu'est-ce qui se passe? Les Ougandais ont la compagnie qui exploite le pétrole du Congolais. Et ils vendent aux Congolais. Si vous écoutez l'intervenant maintenant, comment vous allez maîtriser le prix de pétrole au moment où vous dépendez de l'importation de vos produits? Le Congolais, le Congo s'est ouvert économiquement sans pour autant avoir maîtrisé son économie. Du côté de l'Angola, L'Angola a pris même l'enclave de Cabinda, là où il y a le Congo, le pétrole. Il commence à produire le pétrole. Le Congolais n'a pas la maîtrise, n'a pas une entreprise pour exploiter le pétrole. Maintenant, on importe tout. On parle de Lubumbashi, mais tout le pétrole qu'il y a à Lubumbashi, c'est importé. C'est importé. Importé, même les gens qui importent, ce sont même les étrangers qui font le commerce du pétrole à Lubumbashi. Mais comment vous allez maîtriser les prix si vous importez? Est-ce que
invité?
Pierre. L'orateur d'aujourd'hui.
Oui, notre invité, monsieur Bonnier.
Il n'a pas parlé des chiffres. Vous savez que moi, j'aime les chiffres. Quel est le manque à gagner au niveau
de l'État
l'enclave de Cabinda? Quel est le manque à gagner sur le lac Albert? On n'a pas d'entreprise qui traite le pétrole. Ça, c'est un manque à gagner. Le Congolais est ailleurs. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut dire la vérité aux Congolais. Il ne faut pas commencer à tâtonner ou croire qu'on importe le pétrole. Notre pétrole est importé. C'est terrible au Congo.
Merci beaucoup, madame Joséphine. Vous voulez vous donner bien les chiffres à chaque fois que vous intervenez dans cette émission. Je crois que la question est directement posée à notre invité. Monsieur Bopé, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, je suis avec vous en ligne.
Alors, madame Joséphine, qui a appelé de Boston, a évoqué les cas de l'enclave de Cabinda. Aujourd'hui, la question sur le lac Albert, l'exploitation des gaz et pétrole au niveau de lac Albert, donc de bloc 5, qui suscite en tout cas beaucoup de d'appréhension et de préoccupations des uns et des autres. Alors, parce que madame a besoin des chiffres, qu'est-ce que vous répondez par rapport à l'enclave de Cabinda?
Merci beaucoup. Je remercie Madame Joséphine qui prête les mots de ma défunte maman. Mais je voudrais tout simplement dire à Madame de se calmer. Oui, je comprends que c'est par souci patriotique qu'elle veut réellement que les secteurs aussi importants puissent réellement être maîtrisés et que les enjeux soient réellement pris en compte. Moi, je voulais dire à Madame ceci, puisqu'elle veut parler de l'exploitation, elle dit que quand on exploite, à ce moment-là, qu'on peut avoir des éléments. Mais elle demande des chiffres. On va donner des chiffres sur un espace ou un bloc ou une partie qui a des potentialités du pétrole énormes et que nous, la République démocratique du Congo, même au travers une société qui a solutionné ou qui a réellement appris les études et qui a commencé l'exploitation, qui n'a pas encore fait cela, alors nous allons donner quel chiffre? Je crois que nous sommes un pays souverain et vous avez vu que toutes les démarches et tous les contacts sont en train d'être faits, étaient déjà amorcés pour voir sur la zone d'intérêt commun. Vous avez vu que nous sommes en pour parler. Il y a le traçage maritime qui avait fait que, de l'autre côté, ils avaient un peu débordé. Mais cela doit aller dans les cadres des relations diplomatiques. Et ça ne peut pas se faire d'une manière brutale pour réellement aller pour faire quoi? Parce que ça nécessite un investissement important. Oui, les autres ont déjà commencé à le faire, peut-être. Mais c'est à nous, dans cette position, de négocier pour voir comment nous pouvons régler ces problèmes et faire profiter notre population de notre produit qui est dans les sous-sols. Ça, c'est pour ce qui est de l'enclave de Cabinda, de la Saint-Lignon, et même sur le lac Albert, nénément. Il y a toujours tout un ministère des hydrocarbures. Ici, laissant l'occasion de saluer son Excellence Christin, qui a été reconduit. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de beaucoup de choses, sans vous mentir. Vous croyez vraiment que lui passe son temps sans comprendre qu'il faut passer à la production et qu'il faut réellement penser à l'exportation? Non, moi je crois que nous devons avoir la maîtrise des choses et éviter d'être sensationnels. Et de comprendre que nous avons tout un pays, nous avons un gouvernement, et toutes ces questions, si nous, population, nous nous préoccupons de cette manière avec toutes ces interventions. À plus forte raison, ceux-là qui ont les charges de l'État, ils se préoccupent de la plus belle manière. Donc, pour ce qui est de la solution, je sais que ce n'est pas une solution immédiate. La situation est telle qu'elle est. Nous sommes grand pays consommateur de produits blancs. Nous ne sommes pas les seuls dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui n'ont aucun gisement de pétrole, qui n'ont pas de puits de pétrole, mais qui vivent des importations. Nous, même si nous produisons, je vous donne l'exemple du Gabon, la Sogara produit à peine un volume qui ne satisfait même pas les besoins intérieurs. Ça, j'ai dit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent pour la consommation intérieure, mais ils s'approvisionnent aussi en importation. Même si nous utilisons notre brique, même si nous les raffinons, mais nous n'aurons pas satisfait le besoin de notre pays. Et moi ici, j'ai dit, l'associer, ici je salue le courage, l'associer une grande entreprise qui travaille de la manière... Sans associer aujourd'hui, on n'aura pas des approvisionnements. Ça, je vous dis. Parce que l'associer joue un grand rôle. Un, dans les allégements, pour des grands bateaux qui amènent des volumes importants, c'est l'associer qui s'en occupe au niveau de la BOSL. Et l'associer fait de la logistique pour acheminer ses produits par des barges et par son grand bateau pour ramener jusqu'à Ango. Donc, il y a un travail énorme qui est fait. Et l'associer est en train de se moderniser pour même aller dans la production du bitume, vous l'avez vu, il est fait à l'échauffage. Bien que la raison de l'associer qui était déraciné n'est plus tellement
actuelle, oui, donc on a...
ça va venir. Mais nous ne pouvons pas, il faut que ces matériels soient modernisés, il faut que ces matériels soient résus, il faut que ces matériels soient à la nouvelle technique.
Monsieur Bopé, nous vous gardons en ligne. Voilà, nous poursuivons avec paroles auditeurs, avec vous, chers auditeurs, qui venez à peine de nous rejoindre. Ben, vous êtes à Kinshasa et Raymond à Colézi. Ben, bonjour. Voilà, les temps que la ligne de Ben s'améliore, nous allons prendre Raymond Colosi. Raymond, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis.
Oui, je suis avec vous.
Voilà, heureusement. Alors Raymond, vous avez suivi vos prédécesseurs avant le flash d'information. Quelle est votre réaction par rapport à la thématique du jour?
Oui, bon, je voulais juste un peu intervenir... appuyant un peu l'idée de Madame de Boston.
Oui, allez-y, Raymond.
Qui a parlé de l'inexploitation des produits pétroliers au sein de notre pays.
Voilà, Raymond, je
Parce
crois que...
l'exploitation,
oui, Raymond,
nous avons expliqué que... le pétrole se trouve dans un bassin.
Oui, Raymond, je crois que l'idéal serait que vous arrêtiez carrément votre poste récepteur. Comme ça, on pourrait bien nous entretenir par téléphone. Parce que là, ça crée un retard dans vos propos. On ne sait pas bien suivre l'idée. Hein.
Oui. Allô, oui.
Voilà, allez-y maintenant. Est-ce que vous avez éteint votre poste récepteur, votre radio?
Oui, je suis loin de la radio.
Voilà, parlez maintenant.
Oui, bon, parce que là, je voulais juste intervenir sur le fait que le pétrole se trouve dans un bassin.
Voilà, là, vous sortez de très loin, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe concrètement, Raymond. Vous êtes avec nous?
Oui, au Radio Café, je suis
avec vous. Oui, allez-y, on vous suit.
Oui, parce que je voulais dire que, bon, le retard que nous connaissons au sein de l'exploitation de notre produit, parce que les pays voisins qui sont en train d'exploiter, nous nous retrouvons dans un bassin. Et avec le principe des passes communicants, nous nous serons perdants parce que eux, ils ont déjà commencé à exploiter. Vu le temps que nous mettrons à discuter, à envisager des projets qui sont vraiment kilométriques, je pense que le jour que nous nous mettrons à exploiter, nous serons perdants parce que le niveau du pétrole est en train de baisser.
Voilà, pour vous, il faut aller vite, il faut mener les études pour passer à la vitesse supérieure. Merci beaucoup, Raymond. Ben, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Ben.
Oui, c'est tout à fait cela. parce que le pays connaît un problème au niveau de son alimentation.
Voilà. Décidément, on a des soucis avec Raymond, on avait des soucis de la ligne. Et Ben, là, vous êtes dans un endroit où il y a tout autour de vous des bruits qui ne nous permettent pas vraiment de bien communiquer.
Hein. De pouvoir suivre le cours du pétrole qui change au niveau mondial, par exemple.
Voilà.
Est-ce qu'il y a eu dernièrement par le gouvernement?
Voilà, on ne saura pas. Désolé, on ne saura pas vous garder pendant longtemps sur les ondes des radios Capi avec cette mauvaise qualité. Il est temps pour nous de revenir à vous. Emery Bopé, vous êtes vice-président de l'association des pétroliers de la LDC. Alors, vous êtes en ligne. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à tout ce que nous venons d'entendre des uns et des autres? Voilà, Emery, vous êtes avec nous? Là encore, on a des petits soucis. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des Champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Le gouvernement congolais a décidé de revoir à la baisse le prix des produits pétroliers à la pompe. Le litre d'essence pour la zone ouest et sud coûte 1443 congolais au lieu de 1525 francs. Et pour les gasoils, 1430 francs au lieu de 1515 francs. Alors pour certains observateurs, cette disparité observée toujours pourrait être résolue par l'amélioration du circuit de distribution des produits pétroliers à travers le pays. Alors comment vous réagissez? Bienvenue, vous êtes à Kinshasa.
Merci bien, M. JR et l'invité, et à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment. Oui, moi je pense que nous avons un sujet très délicat, c'est un problème d'intérêt national. Et pensez prochainement à inviter les personnes indiquées, comme l'autorité qui a fixé les prix dernièrement. Bon, j'ai suivi les précédents auditeurs qui insistait sur la production. Mais je voulais signaler qu'il y a des pays au monde qui n'ont même pas un gisement qu'on peut extraire même un baril. Mais la réglementation est assurée par l'État de chaque pays. Alors moi, je pense que le problème que nous avons ici chez nous, l'État lui-même est démissionnaire. Laissez-moi vous dire ça. Puisque la distribution du pétrole hier était assurée par le Pétrozaï, comme vous avez dit, c'est une société d'État. Et je voulais suivre parler de la création d'une nouvelle société. Comment on peut créer une société lorsque la société d'État existe? Moi, je pense qu'il faut que les pouvoirs arrivent à arrêter le pouvoir. Les grands problèmes que nous avons chez nous.
Mais bienvenue, Pétrozaï n'existe plus.
Non, mais la Polydor, c'est quoi? C'est pas la Polydor,
c'est une société commerciale.
Ok. Peu importe le terme. Voilà. Moi, je pense que le grand problème aujourd'hui au Congo, c'est quoi? Nous avons nos dirigeants politico-militaires qui sont les premiers businessmen dans ce pays. Laissez-moi vous dire que je vous dis 8 ans c'est d'ici. Vous les pouvez, la loi même interdit à toute autorité politico-militaire d'exercer le petit ou le grand commerce. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Comment voulez-vous? Vous parlez de la distribution. Même si nous avons une société d'État distribuée à Kinshasa. Alors, s'il n'y a pas moyen de transport pour prendre les carburants de Kinshasa, peut-être vous faites fond de l'Équateur. Comment voulez-vous que la personne ou l'homme d'affaires qui a acheté, qui a acheminé le carburant, les produits pétroliers, dans un coin retiré de la République, avec ses propres efforts,
qui s'incline au prix fixé par le gouvernement. Ça, ça te concerne. Alors, moi, je pense que le grand problème, c'est quoi? Vous parlez de la loi des hydrocarbures.
Ouais.
Alors que nous avons même la loi fondamentale qu'on dit aussi la communauté dans notre pays. Alors, le grand problème, c'est que tant que nous avons 9 voisins, le commerce transfrontalier existera à jamais. Vous ne pouvez pas aujourd'hui condamner les pays voisins qui nous amènent au pétrole. Nous avons des raffineries. Vous savez que même chez moi, à l'Équateur, il y a du pétrole qu'on n'a pas exploité. Alors, nous demandons au gouvernement congolais de prendre les choses entre les mains. Et après qu'il y a une bonne régulation, l'État comprend sa tâche, c'est de réguler, de mettre de l'ordre. Les privés ne pourront que se s'inscrire. Savez-vous que quand vous êtes par exemple dans la fin du site, vous voyez le total. Automatiquement, vous savez que c'est une compagnie française. Un jeune, un consort. Mais ici, chez nous, toutes ces compagnies n'ont que des infrastructures. Vous voyez une station totale qui était au niveau de l'État balayatif. On vous dit que pour tous les Français, donc c'est pour un ministre ou un sénateur, un général. Et comment voulez-vous que toutes les autorités qui tirent profit se mettent autour d'une table pour
organiser la régulation? Merci beaucoup, merci beaucoup, bienvenue. Docteur Richard, vous êtes également à Kinshasa, bonjour.
Bonjour JR.
Oui,
bonjour à tout le monde qui a parlé, et surtout félicitations à Madame Joséphine, qui a demandé les chiffres, et les chiffres ne viennent pas, parce que nous sommes des grands philosophes, sans chiffres. Alors, mon appui c'est quoi? Je félicite l'invité parce qu'il a ressuscité Mobutu en disant que ses propres usagers faisaient bien son travail que Coïdro, qui est devenu un fait privé. Fait privé géré par qui? C'est ainsi que nous dirons, ça rentre dans le patrimoine du dossier des biens mal acquis et assassinats. Alors, en ce qui concerne notre devoir aujourd'hui, Mobutu a raison, il avait dit après moi c'est le déluge. Ça c'est le déluge en matière de pétrole. Comment on peut avoir un pays éventré par tout le monde? Les Angolais éventrent le Congo en prenant le pétrole, 7 milliards de dollars que l'Angola doit verser, on en parle pas.
Oui, docteur Richard. Oui, docteur Richard. Docteur Richard. Docteur Richard, il y a plusieurs contours dans la gestion de cette affaire, dans la gestion du secteur pétrolier. Vous avez vu les débats autour de l'exploitation de la calbaire, le pétrole au niveau de la calbaire, qui a suscité des passions, également des appréhensions des parts et d'autres, des problèmes sur le plan international. Donc, aujourd'hui, le bloc 5, c'est difficile. Voilà. Donc, c'est oui, un débat. Merci beaucoup, docteur Richard, parce qu'on a pris assez de temps. Donc, on va prendre juste Alexandre aussi pour juste une minute. Alexandre, vous êtes avec nous? Voilà, désolé. On n'a plus Alexandre en ligne. Docteur Richard?
Oui?
Oui, en 30 secondes. Qu'est-ce que vous allez dire? 30 secondes.
Oui, mais nous sommes dans un chaos. C'est le déluge sur le plan de pétrole. Après, moi, c'est le déluge. Mobutu a raison. Paix à son âme.
Voilà, merci beaucoup docteur Richard. Nous remercions également tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci à Jean-Claude Sala qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierre Lamégie et Julie Fezabongonda. Une émission qui vous a été présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision des Léonard Moulamba. On se retrouve demain dans un autre numéro.
Allô? 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 Mais il ne répond pas?